Conflit de canard, l'émission qui éclabousse l'actualité.
Bonjour à toutes et à tous, comme vous l'annonçait préalablement Émilie, c'est le conflit de canards en direct depuis nos studios de Saint-Michel, en direct comme à l'accoutumée on va dire, avec aujourd'hui Gilles, bonjour.
Bonjour.
Et Philippe, bonjour.
Bonjour, moi je tiens à dire que j'ai failli ne pas être là.
Ah
heureusement
bon
que mon pote Gilles il m'a téléphoné hier soir à 23h pour me dire qu'il y avait une émission, parce que moi j'avais programmé vendredi prochain.
Là.
Ah.
Voilà.
Bon.
Non, c'est réglé maintenant.
On a dit qu'on faisait un vendredi sur deux.
Ben oui, voilà, mais on a dit qu'on faisait le vendredi du milieu du mois aussi. Et
oui, c'est vrai.
Voilà.
C'est difficile de s'y retrouver avec des mois qui ont 5 semaines.
Exactement.
Ont
enfin, merci semaines. Gilles. Hein.
Prego, prego.
Bon, allez. Allez, j'ai quelques petites choses à vous dire en ce début d'émission. Une belle histoire à vous raconter tout
ah.
d'abord.
Attention, parce que tu l'as et j'ai la vache à meux qui est à côté. Hein.
Ouais, d'accord. Ici, c'est le confin de la mer glaciale, sur laquelle fut au commencement de l'hiver passé grosse et cruelle bataille. L'or gelèrent en l'air les paroles écrites, les chocs des armures, les hennissements des chevaux et autres vacarmes de combat. À cette heure, la rigueur de l'hiver passé, le temps chaud revenu, elles fondent et sont entendues. « Tenez, dit Pantagruel, regardez celles-ci qui ne sont pas dégelées. » Il nous jeta alors à pleine main des paroles gelées et qui semblaient des dragées de diverses couleurs. Nous y vîmes des mots de gueule, des mots d'azur, des mots de sable, des mots dorés, lesquels, quelque peu échauffés entre nos mains, fondaient comme neige et nous les entendions réellement, mais c'était langage barbare. Excepté qu'il y en avait un plus gros, que frère Jean avait échauffé entre les mains, qui fit un son comme des châtaignes jetées dans la braise lorsqu'elles éclatent. C'était, dit frère Jean, un coup de canon en son temps. Il en jeta encore 3 ou 4 poignées. On y vit des paroles piquantes, des paroles sanglantes proférées par une gorge coupée, des paroles horribles et autres déplaisantes à voir. D'autres, en dégelant, rendaient des sons comme tambours, clairons ou trompettes. Nous entendîmes moult miaulements qui étaient comme langage humain. Croyez que ça nous a beaucoup amusés. Je voulais mettre en réserve quelques mots de gueule dans de l'huile, comme l'on garde la neige et la glace, mais Pantagruel ne le voulut pas, disant être folie de faire réserve de ce que jamais on ne manque et que tous les jours on a en main, comme sont les mots de gueule entre tous les bons et joyeux pantagruélistes. Avec ce texte, extrait du car-livre, François Rabelais inventait au milieu du XVIe siècle, donc bien avant Thomas Edison, le concept de l'enregistrement et même celui du sampling ou échantillonnage si prisé des producteurs de musiques urbaines et néanmoins actuelles. Cependant, Rabelais n'inventait pas encore la radiophonie, puisque les sons ne pouvaient être entendus que sur le lieu de leur émission, sans possibilité de les transmettre à distance. Car c'est bien la possibilité qu'offre la radio, celle de transporter à une distance relative à la puissance de l'émetteur et à la loi de propagation des ondes, les sons et paroles qui sont produits en un lieu déterminé. Comme ici, dans ce studio, à l'heure où je vous parle, mais aussi en d'autres lieux et points de la planète. Nous vivons aujourd'hui dans un air saturé d'ondes de toutes longueurs, de toutes amplitudes et de toutes fréquences. Ces ondes en tout genre véhiculent nos mots et nos pensées qui seront ultérieurement gelées dans des mémoires informatiques. Et c'est la diversité de ces mots, de ces pensées, de ces idées, de ces opinions, mais aussi de ces sons au sens le plus large, qui font aujourd'hui la richesse de notre radio. Lors du dernier conseil d'administration de votre radio préférée, a débuté une discussion qui, je l'espère, se poursuivra sur la question de la neutralité de notre antenne. Or, dans cette émission « Conflit de canards », qui, je le rappelle, est une émission satirique, s'expriment différentes opinions qui sont les vôtres, chers chroniqueurs, et qui sont le reflet du regard que vous portez sur l'actualité en général. Mon rôle, celui que j'essaye de tenir en tout cas, est celui d'un modérateur qui découvre à peu près en même temps que les auditeurs le contenu de vos interventions. C'est la règle du jeu. Rendu à ce point, je dois battre ma coulpe, comme aurait dit Rabelais, car j'avoue avoir parfois fait preuve de complaisance à l'égard de vos propos, soit parce qu'ils étaient proches de ce que je pouvais penser, soit parce que ma vigilance ou mon information était prise en défaut. Dès lors, si mon souhait n'est pas de porter systématiquement la contradiction dans tout ce qui se dira dans cette émission, vous voudrez bien souffrir que vos affirmations soient questionnées comme il se doit. Je pense que tout le monde y trouvera son compte, du côté du micro comme du côté du haut-parleur. Rabelais n'était certes pas neutre, mais le livre en tant que support continue de l'être, comme se doit de l'être notre radio dans toute sa diversité et sa richesse.
Boum.
Ah, ça c'est le son du canon qui a dégelé.
Non mais c'est un bon débat. C'est vrai que peu de temps avant l'émission, on a échangé de mots. C'est vrai que moi, c'est une question que je me suis un petit peu posée aussi. C'est-à-dire que, bon, je parle pour moi, hein. C'est vrai que j'ai aucune timidité à me lâcher, à dire ce que je pense, etc. C'est vrai que je trouve quelque part un exutoire à ce micro, mais c'est vrai aussi que Radio Larzac, c'est pas mon média, et que donc il y ait ce questionnement, je trouve ça tout à fait logique et tout à fait sain. Voilà, maintenant il faut qu'on en parle, parce que bien évidemment, ce qui me concerne, j'ai pas non plus envie de me calmer, quoi. Voilà.
Non, donc, mais il s'agit pas, je crois, de mettre de l'eau dans son vin, hein. c'est pas la question.
Ouais, tout à fait.
C'est juste simple, que l'auditeur puisse s'y retrouver, en fait. Hein.
Oui, donc, voilà. Mais il nous est arrivé aussi de... Pendant cette émission, d'interpeller les auditeurs en leur demandant leur avis sur des choses qu'on pouvait affirmer. Enfin, moi, je me souviens de l'avoir fait plusieurs fois, quoi.
Je peux rajouter quelque chose.
Je t'en prie, Philippe.
Comment s'appelle le fondateur de Marianne, déjà?
Jean-François Kahn.
Voilà, Jean-François Kahn. Alors, j'ai pas la citation exacte, hein, ça remonte à quelques années, mais il a dit « Un journaliste n'est jamais impartial ».
Oui, non, mais il n'est pas question d'impartialité. Quoi.
Voilà. On va le montrer, là.
Comptez sur nous.
Bien, alors, on va attaquer, donc. Alors,
attaquons.
Qu'y a-t-il dans vos besaces, mes
Moi,
chers
j'ai une
amis
petite... je peux faire une petite nécro?
Oh,
une petite nécro rapide. Alors, j'étais pas là, là. Je n'étais pas là, ça commence mal. n'étais pas là. Je me suis rectifié, donc, la dernière émission, puisque j'étais en formation d'Ikebana. Et j'ai voulu la réécouter pour voir si vous aviez bien...
Tu faisais des bouquets ?
Oui, je faisais des bouquets. j'ai voulu réécouter l'émission pour voir si vous aviez bien respecté les négations, et je n'ai pas pu l'écouter parce que, évidemment, apparemment, c'est un gros merdier sur le site actuellement pour écouter les émissions.
Ah bah voilà. C'est-à-dire que le site n'est pas encore opérationnel.
Oui, donc c'est un gros merdier pour écouter les émissions.
Mais à partir d'aujourd'hui, on pourra les écouter sur un audio-blog.
Jusqu'à aujourd'hui, c'était un gros merdier pour écouter les émissions. Donc, je ne sais pas ce que vous avez mis dans la nécro. Moi, j'avais noté des trucs, mais bon.
Il n'y a pas eu de nécro.
Il n'y en a pas eu.
Pas une nécro.
Non, moi, je suis très sensible. Et personnellement, je.
Voilà. Bon, mais du coup.
Ah non, non, mais les écouter, pourquoi
mais
pas.
Je n'ai pas repris mon ancienne nécro. J'ai actualisé. Donc, très rapidement, moi, ce qui m'a touché, le décès de Gottlieb.
Ah, bah tiens.
Moi, j'ai toujours en tête le dessin avec Tarzan qui fait hop, hop. Ça m'a traumatisé à vie.
Moi, je me souviens de crises, mais je crois que ce sont les seules crises de fou rire que j'ai pris, mais en pleurer. Et j'étais dans le métro à Paris et je lisais la rubrique à braque.
Mais oui, c'est dans la rubrique à braque.
Il a fallu que je sorte parce que je me suis dit. Enfin, les gens allaient appeler police secours, quoi. Ils savaient pas ce qui se passait, mais.
Non. C'est terrible. Bon, j'ai entendu aussi, c'était hier ou avant-hier, le décès de John Glenn. Premier astronaute à avoir été mis en orbite autour de la Lune. Voilà.
Exact.
Et là, ça rentre dans ma nécro. J'ai fait un petit speech. Est-ce que vous connaissiez Michael Jim Deligatti?
Non.
Bon, comme son nom l'indique, c'est un descendant d'immigrés italiens. Alors, qui a un peu mal tourné, question bouffe, parce que donc cet homme est mort il y a une semaine, je crois, à 98 ans. Et vous savez qui était ce Michael Jim Deligatti?
Ah oui.
C'était l'inventeur du Big Mac.
Oui.
Alors, c'était un des premiers franchisés McDo dans les années 50. Et en 1967, dans son restaurant, j'ai toujours du mal à mettre restaurant. Alors, je mettais des guillemets. Hein, à la radio, c'est difficile à mettre des guillemets, mais je mets des guillemets dans restaurant. Dans la petite ville d'Uniontown. Alors, c'est un trou du cul du monde, près de Pittsburgh. Il y avait 3 habitants. Et il a eu l'idée d'inventer le hamburger XXL. Alors, son idée, c'est génial. C'est tu prends 2 merdes et tu fais une grosse merde. Donc, en l'occurrence, c'était un hamburger simple avec un cheeseburger. il a mis un étage en plus, ça a fait le Big Mac. Et voilà, donc, alors, Big Mac, hein, sauce spéciale, jaune d'œuf, moutarde, oignon, ail et autres condiments.
Alors, la recette... Mais alors pourquoi ce nom Big Mac, hein,
parce que... Bah parce que tu l'avais pris de McDo et c'était un Big Mac, c'était un gros Mac avec deux étages.
D'accord. Mais ça, le McDo existait déjà.
Ah, le McDo existe, c'est ce que je viens de dire.
On n'arrête pas de citer des marques, mais
en fait. Il y avait le hamburger simple et le cheeseburger.
D'accord.
Donc c'était McDo. C'était... Ouais. Et lui, en mettant les deux.
Il a fait un empilage. Quoi.
Il a fait un empilage, tout, ouais. Voilà, c'était une idée géniale. Alors, au début, Jim, il l'avait appelé son Big Mac, il l'avait appelé The Aristocrat. Mais McDo, on n'a pas voulu parce que ça ternissait un petit peu l'image populaire.
Trop élitiste.
Voilà, trop élitiste. Alors, il faut quand même savoir que grâce à ce Big Mac, McDo est devenue la première chaîne de fast-food. Ils ont fait plus 15% de recettes le premier mois. Il y avait des abrutis qui faisaient des dizaines de kilomètres pour aller dans ce Union Town, pour aller bouffer un... Bon, on arrête de donner des merdes, voilà. Et alors... Et ce qu'il faut savoir, c'est que le tout, ce Jim, finalement, il a pas touché un rond sur le truc. Parce que dans la règle des franchisés Big Mac, McDo, pardon, c'est « Vous pouvez innover avec notre autorisation, sous notre contrôle, mais c'est notre marque. » Donc, moralité, gros gens comme devant, il a pas touché une thune. Et voilà, donc, simplement, quelques chiffres pour terminer. Il y a un Big Mac qui est vendu toutes les 17 secondes aux États-Unis. Ça fait peur. Il y a 36 000, ouvrez les guillemets, restaurants dans 118 pays et 68 millions de consommateurs chaque jour. Voilà. Sachant que j'en ai mangé un dans ma vie, ça fait qu'il y en a qui doivent s'en taper un max. Voilà, c'était ma rubrique nécro.
Voilà, alors moi je ne vais pas faire dans la nécro, je vais faire dans la célébration d'anniversaire.
Ah, ça change.
Aujourd'hui, Kirk Douglas a 100 ans.
Non.
Voilà. Et on espère que Spartacus vivra encore longtemps.
100 ans.
Voilà.
Voilà. Pas mal. Pas mal.
Gilles.
Ben moi, je voudrais enchaîner, si c'est possible après ça, sur une actualité locale.
Pourquoi après ça?
Ben parce que après nécro, anniversaire, etc. Ah. Tu vois, on l'enchaîne.
Attention, je la vache à meuf.
J'en ai rien à foutre. Donc l'actualité locale. Parce que nous avons été quelques-uns à avoir vent, si l'on peut dire, d'un fait divers qui se serait, alors j'emploie le conditionnel, qui se serait déroulé dans la nuit du 24 au 25 novembre 2016 à Millau, à 3h du matin, sous la forme d'un accident de voiture assez particulier. C'est-à-dire que, d'après plusieurs riverains, à 3h du matin, donc une voiture assez puissante de marque BMW remontait à très vive allure l'avenue Jean Jaurès jusqu'à la place du Mandarou. Et là, on ne sait pas ce qui se serait passé, mais cette voiture, arrivée sur la place du Mandarou, n'a pas freiné. A failli s'encastrer dans la fontaine centrale. Cette fontaine centrale, le terre-plein lui a servi de tremplin. La voiture a fait un tonneau et a fini sur le toit, à quelques mètres d'un commerce. Alors voilà les faits qui ont été rapportés par certains riverains. Et on peut s'étonner du silence des médias locaux qui sont d'habitude très friands de faits divers, etc. Donc voilà, moi personnellement, on m'a rapporté ces faits. J'ai été assez perturbé par le manque d'écho total de la part de la presse locale. Et donc, j'ai fait ma petite enquête. Parce que voilà, causer dans le poste, c'est bien, mais encore faut-il confirmer un petit peu.
Moi, je dois dire que je n'ai pas entendu parler de cet accident.
D'accord.
Et voilà. Et bon, après.
Je n'ai pas entendu
parler de cet accident. Après, bon, il s'agit d'un accident de la circulation. Mmh. Donc, dans une rubrique, ça rentre dans une rubrique particulière habituellement. En quoi. On va voir en quoi ça peut.
Oui, voilà. En fait, le problème, c'est qu'il n'y avait pas un occupant dans cette voiture, mais il y en avait trois. Et ces trois occupants seraient des légionnaires. Voilà. Donc, ne serait-ce que sur le fait qu'un fait divers comme cela, enfin tout de même assez important, je veux dire, une bagnole qui va s'en plafonner à 3h du matin après avoir déboulé sur la nuit Jean Jaurès à plus de 100 km/h et qu'il n'y en ait aucun écho dans la presse locale, alors que le Midi Libre Millau téléphone tous les matins au commissariat pour avoir les faits divers. Quand il y a des excès de vitesse sur l'autoroute.
Ça, c'est la procédure habituelle, voilà, le fait de téléphoner.
Voilà, tout à fait. Voilà. Donc là, il n'y avait rien. Donc j'ai commencé à douter un petit peu de cette information et donc j'ai fait ma petite enquête. Donc par exemple, donc j'ai téléphoné au commissariat, puisque le commissariat donc, est bien placé pour savoir ce qui se passe. Donc voilà, je me suis présenté, j'ai demandé un peu confirmation de ce fait divers. Et là, la réponse que j'ai eue de la part du policier que j'avais au téléphone, ça a été de me dire « je ne confirme pas, point de suspension, je ne dément pas », avant de me raccrocher au nez. Voilà. Donc ensuite, j'ai téléphoné...
Raconte pourquoi ils t'ont raccroché au nez aussi, peut-être, non ?
Non. Non, j'avais été très poli, hein, mais...
Oui, non, mais justement, c'est pour ça.
Ensuite, donc, j'ai téléphoné aux urgences de l'hôpital, puisque quand même, c'est trois...
Donc je ne confirme pas, je ne dément pas, c'est ni oui ni non.
C'est ni oui ni non, voilà. D'accord. Donc ensuite, j'ai téléphoné à l'hôpital aux
urgences. C'est pas Mitterrand que t'as eu au téléphone ?
Non, je crois pas, non. Donc ensuite j'ai téléphoné aux urgences de l'hôpital et puis là après un petit blanc, donc la personne que j'ai eue au téléphone après être partie au renseignement m'a repris en me disant nous ne sommes pas habilités à vous donner ce genre d'informations. Voilà. Donc après j'ai appelé, donc chez les pompiers c'est la même chose. Nous ne sommes pas habilités à vous donner ce genre d'informations. Donc après, j'ai téléphoné à la mairie. Du standard, on m'a passé au cabinet du maire. Du cabinet du maire, on m'a passé au service de communication. Et au service de communication, on m'a dit, on vous rappellera. Quelques temps plus tard, effectivement, on m'a rappelé. Un élu de la mairie m'a donc rappelé. Et donc, m'a confirmé qu'effectivement, un accident de voiture s'était produit à Millau ce jour-là. Mais bon, voilà, un petit accident, la route devait être mouillée.
Oui, un accident, c'est par nature accidentel et ça peut arriver à tout le monde.
Absolument, voilà, tout à fait. Après, quand j'ai posé quand même d'autres questions, effectivement, les dégâts, c'était trois sapins et un poteau de Le Mont-d'Arrou qui ont été fauchés. Et quand j'ai commencé à avoir confirmation que les passagers de ce véhicule étaient des légionnaires, là, il y a eu un blanc. Et quand j'ai demandé si, avec les services de secours et la police, était arrivée, comme on me l'a dit, la police militaire, là, l'élu m'a renvoyé au commissariat. Et donc, la boucle était bouclée. Quoi, voilà. Alors, pour l'instant, il n'y a aucune confirmation. Mais il y a tout de même au moins confirmation d'un accident. Fait divers. Qui n'a pas été donc mentionné dans la presse. Donc moi personnellement, je parle en mon nom, personnellement j'ai un gros doute, et je me demande si cette voiture avait été occupée par ce que certains appellent des zadistes, par exemple, s'il n'y aurait pas eu un gros écho dans la presse locale, s'il n'y aurait pas eu toujours la litanie des réactions scandalisées des bons Français en charentaise, etc., etc. Donc là, la question reste ouverte et je fais un petit parallèle avec un communiqué qui vient d'être publié par la ville de Millau, apparemment sur un autre sujet. Puisque la ville de Millau réagit après des dégradations constatées aux décorations de Noël sur la ville de Millau. Donc il paraît qu'il y a un renne sur la place de la Capelle qui aurait souffert.
C'est pas moi, tu me regardes, j'ai rien fait moi.
Attends, c'est quoi? C'est Gilbert Bécaud, ça, le voleur d'orange, non?
C'est pas moi.
Donc voilà, il y a un renne qui aurait été un petit peu malmené sur la place de la Capelle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la mairie de Millau a décidé de porter plainte aussi pour dégradations qui se sont produites sur la place du Mont-d'Arrou. C'est-à-dire un cerceau et une armoire électrique qui aurait été défoncée. La ville de Millau porte plainte et appelle tous les Millavois, je cite, à être vigilants et à signaler tout comportement irrespectueux de la part d'individus malfaisants. Alors voilà, je répète, je n'ai aucune certitude, j'ai un gros doute, mais j'aurais tendance à dire à monsieur le maire qui, si cette voiture avait été effectivement occupée par des zadistes, j'imagine qu'on l'aurait retrouvée encore sur son perron en train de japper comme il a fait la dernière fois. Cela étant, il vaut mieux qu'il soit sur le perron, parce que s'il descend, on ne le voit plus, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Bon, alors
c'est,
voilà.
C'est méchant, c'est petit.
C'est petit, si on est bien d'accord. Donc je dirais à monsieur le maire de Millau, s'il veut effectivement que retrouver la trace de certains individus malfaisants, il pourrait peut-être. Alors c'est pas, je l'assure pas d'une réponse affirmative, mais pourrait peut-être passer un coup de fil au camp de la cavalerie. Voilà.
Tu aurais pu passer un coup de fil au camp de la cavalerie.
Mais bon, on rappelle quand même que les deux faits n'ont pas de relation directe. Enfin,
le Rennes.
Jusque là, on n'en sait
rien. Tu parles du Rennes qui a été dégradé.
Oui.
Hein, qui a blessé.
Oui. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, c'est une information qui reste au conditionnel, mais bien évidemment, chers auditeurs, nous vous tiendrons au courant de la suite des événements.
Très bien. Autre chose dans l'actualité locale ?
Juste une petite... ce que tu dis, ça évoque un truc. Hier, je me promenais sur le Larzac, et puis toute la promenade a été rythmée par le rythme de... des tirs de je sais pas trop quoi, je sais pas quelles sont les armes qu'ils utilisent. Et je me disais juste que le COS était inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en marchant, je me disais, ben finalement, c'est bien, la guerre est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, c'était juste une pensée comme ça.
Poétique.
Moi, j'ai une bonne nouvelle quand même.
Alors, allons-y.
Parce que pendant que j'étais absent, on m'a dit, oui, c'est bien, mais il n'y a plus de bonnes nouvelles maintenant. Alors, j'ai dit, voilà, je vais vous trouver des bonnes nouvelles. Alors, vous avez sans doute entendu parler de... Il y a eu pas mal de pétitions sur ce fameux projet d'oléoduc aux États-Unis qui devait traverser...
Donc, APL,
voilà, qui devait traverser... Enfin, qui doit traverser les territoires des Sioux. Alors, bonne nouvelle. Les Sioux de la réserve de Standing Rock, dans le Dakota du Sud, donc, viennent de remporter une grande victoire, puisque le Dakota Access Pipeline, donc 180 km, qui menaçait des sites ancestraux et puis sacrés
et puis
pour
le,
eux.
Et puis le sous-sol aussi. Hein,
et le sous-sol, oui, je vais y venir, et leurs sources d'eau, oui. Mmh. Donc, une bataille a été gagnée, mais alors, ça, pour moi, ça ne signifie pas la fin de la guerre, parce que c'est le corps des ingénieurs de l'armée qui a annoncé qu'il refusait à la société pétrolière un permis de forage sous la rivière Missouri. J'imagine qu'il devait faire passer sous la rivière le pipeline, afin, ouvrez les guillemets, d'entreprendre une étude d'impact environnemental complète et étudier des tracés alternatifs. Alors moi, je méfie toujours de ce genre de truc, puisqu'on peut parler de Notre-Dame-des-Landes, etc. D'autant plus que le sieur Trump, le bien nommé, a annoncé qu'il appuyait le projet. Et pour mémoire, Donald Trump... a investi entre 500 000 et 1 million d'euros dans la compagnie Energy Transfer Partners qui porte le projet et une somme à peu près similaire dans Philips 66 qui bénéficierait de 28% de part de l'oléoduc pardon, une fois qu'il serait en service. Donc, comme le disait l'article, c'est un article dans Bastamag, je crois. Une bataille de gagner, mais ça ne signifie donc pas la fin de la guerre. Et notamment quand on voit un petit peu ce que Trump nous a concocté comme gouvernement, avec un certain. Alors moi, je l'appelle Pruitt. Il s'appelle Pruitt. Et je trouve que moi, Pruitt, ça lui va bien.
Ouais. Moi, j'avais prévu d'en parler aussi.
De Pruitt ?
Non, de Prout.
De Prout, tu l'appelles Prout ?
Ouais.
Alors, on vous laisse le choix, mi auditeur.
Bon, alors, sur le DAPL, là.
Voilà, Prurit, parce que Prurit, donc, c'est. Qui a été nommé, je crois.
À l'Agence de l'Environnement.
Voilà, l'Agence de protection de l'environnement. Attention, oui. Et donc, c'est l'ancien ministre de la Justice de l'Oklahoma, proche de l'industrie des énergies fossiles. Donc, c'est un petit peu comme si on confiait le planning familial à Marion Maréchal Le Pen, par exemple.
Oui, ou à Christine Boutin.
Ou à Christine Boutin, voilà. Donc, à suivre, Dakota du Sud. Et puis, est-ce que ce ne serait pas non plus une petite... Monsieur Obama en profite pour glisser un petit pic avant de partir. Et puis, hop, soit faire une petite virginité. Je ne sais pas. Bon, enfin, j'ai l'esprit mal tourné. Hein.
Ouais,
c'est
ouais,
bien
ouais,
connu.
Ouais,
hein.
Alors, on vient de parler d'une nomination dans le cabinet Trump. Il y a quand même du beau monde hein, dans ce cabinet. Par exemple, alors je ne sais pas si c'est... Oui, c'est le ministre de la Justice. Ça existe ça aux États-Unis, je pense, oui. Enfin bref, c'est un certain Jeff Sessions qui a été nommé par Trump. Donc en 86, ce personnage avait dit à un avocat blanc de faire honte à sa race pour avoir défendu un client noir. Voilà, le nouveau ministre de la Justice. Après, à la Sécurité nationale, nous avons l'ancien général Michael Flynn, qui est surnommé par la presse américaine le plus en colère des généraux américains. Donc je pense qu'on va se marrer. Ensuite, il a nommé à la tête de la CIA le représentant républicain du Kansas, Mike Pompeo, qui est proche du Tea Party. Qui avait soutenu le programme de surveillance de la NSA et réclamé la peine de mort pour le lanceur d'alerte Edward Snowden. Ce type-là est maintenant la tête de la CIA. Ensuite, pour rassurer son parti, Donald Trump a nommé au secrétariat général de la Maison-Blanche Reince Priebus, donc qui est le chef du Parti républicain. Et pour le poste de secrétaire d'État circule le nom de Mitt Romney, donc l'ancien candidat en 2012, qui, pendant la campagne électorale, avait traité son co-légionnaire républicain Trump de charlatan et d'imposteur. Donc comme retournant de veste, c'est quand même pas mal.
Il y en a une qui est forte aussi dans le lot, j'ai oublié son nom, qui a été nommé à l'UNESCO ou aux Nations Unies. C'est une femme.
Oui, c'est la gouverneure du Dakota, de la Caroline du Sud.
J'entendais ça en voiture la dernière fois.
Elle s'appelle Nikki Haley.
C'est possible. Enfin, je ne sais plus si c'est elle, mais c'était une fervente opposante. Et c'est pareil. Il lui a proposé le poste, elle a foncé tête baissée. Donc, moi, ce qui me fascine, c'est vraiment le.
C'est la première femme gouverneure de la Caroline du Sud, d'ailleurs.
Je m'en fous, la constance des politiques, la constance des politiques dans leur choix, c'est hallucinant. Je t'ai coupé la parole, excuse-moi.
Non, mais je t'en prie, c'était un complément. Après, donc le directeur de campagne de Trump, donc Stephen Bannon, donc a été nommé conseiller stratégique. Alors, dans la presse américaine, lui, il est présenté comme l'homme le plus dangereux de la vie politique américaine, et il a même été surnommé Goebbels.
Ouf.
Par un journaliste de Fox News.
Ouf.
Donc Fox News, c'est pas vraiment une chaîne gauchiste, quoi. Et ce fameux Bannon, donc, considère par exemple que en politique extérieure, enfin politique étrangère, Marion Maréchal Le Pen est une nouvelle étoile montante. Voilà. Alors le seul poste pour l'instant qui reste à pourvoir, c'est celui du secrétaire à l'éducation. Mais quand on sait que le vice-président, donc Mike Pence, est un créationniste, on laisse imaginer ce qui va pouvoir être enseigné dans les écoles américaines. Voilà, donc je rappelle, les États-Unis, phare de l'humanité.
Tout n'est pas confirmé quand même dans les nominations de ce cabinet, puisqu'il faut qu'il y ait l'accord du Sénat.
Hein, voilà.
Pour que ce soit...
Purit, il a été confirmé, non?
Donc rappelle-moi, c'est quel...
Purit, agence protection de l'environnement.
Ouais.
Alors... Environnement, je vais y regarder.
Ouais, c'est vrai qu'il faut encore la confirmation de la Chambre des représentants, etc. Mais majorité républicaine.
Il est nommé, effectivement.
Il est nommé,
majorité
voilà.
Républicaine.
Ah, tout de beaux jours se réservent devant nous.
Oui, mais. Bon, après, la comparaison est peut-être un petit peu osée, là. Mais tout à coup, c'est parce que je me dis, voilà, on est en train de parler des Américains, mais on pourrait parler de nous aussi, quoi.
Ah oui, oui, enfin, bien sûr. Voilà, moi, j'ai vu une très bonne nouvelle dans le Gorafi. C'est peut-être les vraies raisons du retrait de Flamby. Hein, c'est que pour régler le problème du flot de candidatures et d'un risque de division de la gauche, le bureau central du PS a annoncé que la primaire est remplacée par des duels au sabre. Voilà, chaque candidat sera opposé en duel à son rival dans un combat à mort d'une minute. Les combats seront diffusés en direct sur Internet. Et dans tous les cas, il ne pourra en rester qu'un. Moi, je trouve que ils ont une bonne idée, là, au PS. Je rappelle, c'est le Gorafi.
C'est le Gorafi, voilà.
Oui, au niveau de politique, là... Moi, j'étais content d'apprendre que notre ami Bernard Chimique était... Bernard Cazeneuve, pardon, était donc Premier ministre. C'est bien, ça. Enfin, je veux dire, en termes de message, c'est quand même assez fort. Et donc, son successeur, c'est Leroux.
Bruno Leroux.
Bruno Leroux.
Leroux.
Leroux. Le mou, roux, mou, roux. Leroux. Voilà. Non, mais voilà. Donc, ça, c'est bien aussi. Après, donc, voilà, on a eu. Je me souviens pas si on avait parler, peut-être pas vraiment, mais donc de cette fameuse primaire à droite, donc avec la, la victoire de Fillon. J'ai lu un petit tweet qui est passé comme ça, parce que vous savez qu'il y a quand même des électeurs de gauche qui ont participé à la primaire de la droite.
Il paraît, oui.
Bon, moi, j'avoue franchement, j'ai failli le faire. Hein.
Oui, mais j'ai vu passer un tweet d'un électeur de gauche disant « Nous, électeurs de gauche, on est tellement mauvais qu'on perd même pour une élection de droite. » J'ai trouvé ça quand même
pas mal. Oui, c'est amusant.
Donc voilà, il faut quand même savoir que donc, le candidat nommé, c'est Fillon, qui est un visionnaire. Il faut le reconnaître. C'est-à-dire qu'au moment où en Angleterre...
Un visionnaire ou un rétro-visionnaire ?
Visionnaire. Non, visionnaire.
Tu vois, je sens que tu es un peu partial, là,
Nicolas. Oui.
C'est vrai.
Ah, heureusement qu'on est là pour le recadrer. Hein.
Tu m'étonnes. Un visionnaire en ce sens où, au moment où, en Grande-Bretagne, l'héritage de Thatcher est répudié, Fillon, lui, veut l'appliquer. C'est-à-dire qu'il accorde, à titre posthume, l'asile politique à Thatcher. Parce que voilà, le programme, il est quand même pas mal de Fillon. Alors voilà, je disais ça parce que l'héritage de Thatcher a été répudié, parce que la nouvelle première ministre britannique, donc Theresa May, a fait un discours il n'y a pas très longtemps où elle a dénoncé une société gangrénée par les privilèges des riches, où elle a défendu le rôle de l'État qui est là pour fournir ce que les individus, les communautés et les marchés ne peuvent pas apporter, qui a fait une mention insistante sur les droits des travailleurs, sur l'éloge de l'impôt, qui est présenté comme le prix que les citoyens doivent payer pour vivre dans une société civilisée. Voilà. Or, monsieur Fillon, lui, a prévu un programme qui passe notamment par la suppression de 500 000 emplois dans la fonction publique. Alors, dans ce programme, on peut dire qu'il y a deux objectifs différents. Donc le premier, c'est bien évidemment de réduire les dépenses publiques. Mais pourquoi faire ? Il faut bien financer les baisses d'impôts qu'il a prévues, à hauteur de 40 milliards d'euros pour les entreprises. Il faut bien financer les 10 milliards en faveur des Français les plus riches, notamment par la suppression de l'emploi de l'impôt sur la fortune, etc. etc. Et puis, on peut aussi financer ça par une hausse de la TVA, qui est l'impôt le plus juste que l'on connaisse, n'est-ce pas ? De 2%, voilà. Et alors, moi, je suis toujours assez étonné.
Pour la TVA, il faut, ça ne peut pas se faire comme ça unilatéralement.
Non, mais voilà.
Il faut une décision européenne pour que ça puisse se faire.
Cela étant, voilà, il n'est pas encore président. Et c'est quand même dans son programme. Alors, parmi les... Donc, la casse qui est prévue... Enfin, moi, je suis toujours étonné de voir quelqu'un qui veut devenir, en l'occurrence, chef d'État pour casser l'État. Parce que l'État sert à quoi ? Si ce n'est... alors bien évidemment, on ne parle pas des domaines régaliens de l'État, c'est-à-dire que la justice, la police, l'armée, ça, c'est pas menacé. Mais par contre, ce qui est dans la visée, c'est surtout le secteur public de la santé, puisque M. Fillon voudrait que les hôpitaux publics soient transformés en établissements privés, avec possibilité de faillite et dans ce cas, être racheté par la Générale de Santé, qui est un groupe privé.
Il n'y a pas un certain Sarkozy dans la Générale de Santé ?
Non, c'était autre mutuelle, ouais. Et il a démissionné.
Il a démissionné, d'accord.
Voilà.
Là, je suis vraiment mauvais.
Donc il faut savoir que le système de public français quand même est l'un des plus efficaces et des plus solidaires du monde, et que une petite comparaison sur le coût de la santé en France, les dépenses de santé en France représentent 11,7% du PIB. Aux États-Unis, où le système de santé est privatisé à 50%, les dépenses de santé représentent 17% du PIB. Donc il faudrait peut-être qu'on arrête de nous dire que la santé coûte trop cher. Et comment, même quand on est un responsable politique à vocation de diriger un État, peut-on dire qu'un service public en général et qu'un service de santé en particulier puisse coûter ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Je me souviens, en 95, j'avais suivi de très près les grèves. À l'époque, j'étais à Paris, j'allais assister aux assemblées générales des cheminots, gare d'Austerlitz. Hein, je vous rappelle que ce mouvement de grève était contre le plan Juppé, et qui, oui, n'était pas si vierge qu'on nous l'a présenté lors de la dernière primaire. Et je me souviens très bien que avoir entendu un jeune cheminot, alors qu'on accusait, hein, je vous rappelle, hein, les cheminots qu'on accusait de faire une grève corporatiste, etc. Donc lui, il avait dit, mais le plan Juppé, c'est la casse de la sécurité sociale. Combien coûte un opéré du cœur? Je m'en fous complètement. Ce genre de choses n'a pas de prix. Voilà. Et ensuite, l'autre cible, bien sûr, dans la fonction publique, après la santé, bah, ce sera bien sûr l'enseignement, puisque cette suppression de centaines de milliers d'emplois dans la fonction publique va aussi toucher l'enseignement, en sachant que, malgré tout, on pourrait peut-être dire à Monsieur Fillon qui a une autre possibilité d'assainir les finances publiques, ce serait par exemple de stopper l'évasion fiscale. Et de récupérer donc les
60 à 80 milliards.
80 milliards d'euros donc, qui, chaque année, font défaut aux hôpitaux, aux écoles, aux universités, etc., etc. Mais, bien évidemment, pour ça, il faudrait s'attaquer aux grandes entreprises, aux ménages les plus favorisés, etc., etc., ce qui n'est pas le but de la manœuvre et la base du système en général, on l'aura bien compris.
Juste pour appuyer ce que tu dis, Gilles, j'ai entendu, c'était hier, je crois que la France figure au 27e rang sur le classement, j'ai oublié le nom, le classement des, au niveau de l'enseignement.
PISA, ouais. Voilà, le classement PISA, ouais. Oui. Et
donc on n'arrête pas de régresser apparemment. Juste, puisqu'on parlait politique, moi j'ai un scoop pour vous.
Sur l'ISF, juste un autre truc, au passage, puisqu'on a cité les chiffres, je crois que c'est 5,2 milliards, en fait, en 2015, le rapport de l'ISF à l'État. Voilà.
Oui, donc juste quelques trucs en vrac. J'ai un scoop pour vous, c'est que je connais le nom du futur Premier ministre, si c'était Fillon qui était élu.
Non.
Oui, je peux vous le dire.
Tu vas le lâcher là, comme ça?
Je vous le lâche, parce qu'on est sur Radio Larzac. Je ne vais pas faire de la rétention d'informations, hein, c'est Bob Ménard. Ouais. Robert Ménard, voilà. Il a annoncé qu'il était d'accord avec presque 100% de ce que dit Fillon.
Non, oui, d'accord, mais ça veut dire que
le
rapprochement n'est pas fait quand même.
Mais si.
Il n'y a pas de fumée sans feu.
Et juste pour te dire, tu parlais de... On parlait de...
Il va nous faire les agences matrimoniales.
Non, il ne faut pas exagérer. Et on parlait de justice. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, mais la Cour de cassation, donc, qui est la plus haute juridiction française, vient d'être placée par décret sous le contrôle direct du gouvernement. Et vous savez qui est-ce qui a fait ça? Hein? Vous savez qui est-ce qui a fait ça? C'est le petit facho, Carlos, qu'on va peut-être avoir comme président.
Attends, il faut qu'il passe par la primaire de la gauche, et je rappelle qu'il a fait que 5% la dernière fois.
Oui, mais bon, voilà. Je rappelle, hein, le Carlos, pour les auditeurs qui n'auraient pas l'habitude de nous... C'est notre ami... j'ai oublié son nom.
Manuel Valls.
Voilà, Manuel Valls.
Voilà. En sachant que
j'ai vraiment l'habitude de l'appeler Carlos, que j'ai carrément oublié son nom.
En sachant que les chefs
qui
de la
est
cour de...
ibéro-suisse, comme chacun sait.
En sachant que les chefs de la Cour de cassation, qui ont très rarement l'habitude de reprocher quoi que ce soit
au gouvernement,
au pouvoir politique,
il n'y a pas eu de réponse.
On réagit, oui.
Sans réponse. Hein.
Bon, je crois qu'il est grand temps, parce qu'on a, voilà, on n'a pas regardé trop l'heure tournée. Il est grand temps de faire une première pause musicale dans cette émission.
Un choix musical de Philippe, je crois.
Ah bon? Alors Philippe, on te laisse présenter.
Moi j'ai fait un choix musical.
T'assumes après. Oui.
Je dirai après, allez, mets d'accord. La musique.
Au revoir.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. What I'm
some try to tell me, thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end, and I love you.
Night in White Satin, c'était le choix de Philippe.
Ai-je besoin de donner une raison ?
Non.
Oh, voilà. Non, mais
donc je n'en donnerai pas. Donc,
c'était la chanson ou les Moody Blues ?
Le tout.
Le tout, d'accord.
Les paroles.
Très bien. On parlait avant cette chanson, on a parlé fiscalité notamment. Et on n'a pas évoqué le jugement dans l'affaire Cahuzac,
oui.
Donc qui
moi
a
je,
été prononcé récemment.
Hier. Je veux bien en parler puisque oui. Ce matin ils en parlaient sur France Culture. Déjà rappeler que c'est suspensif puisqu'il a fait appel.
Il a fait appel effectivement.
Donc pour l'instant Monsieur Cahuzac n'ira pas en taule. Que la loi.
Donc la condamnation, on rappelle, c'est 3 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité.
Et donc ce matin j'entendais que la loi prévoit 5 ans. De prison ferme pour un cas de fraude fiscale, et que suite à l'affaire Cahuzac, ça a été porté à 7 ans. Donc les 3 ans, c'est annoncé comme... Il n'y a rien d'exceptionnel, quoi. Je veux dire, un Pékin moyen qui ferait la même chose, il prendrait 7 ans. Voilà, c'était le seul commentaire que j'avais à faire sur l'histoire.
Mais qu'est-ce qui avait été requis ? Parce que ça, c'est le jugement.
3 ans, je crois.
D'accord. Ouais.
D'après ce que j'ai entendu, c'était ça.
Très bien.
Moi, j'ai une bonne nouvelle. Là, tu vois,
ah, encore
ouais, j'en ai plein des bonnes nouvelles, moi.
Bon,
et ben, je vais vous annoncer ça. Glander, c'est bon pour le cerveau. Voilà. C'est donc, selon le neurochirurgien Francis Eustache, ne rien faire le dimanche après-midi est une chose absolument vitale pour le moral et la mémoire.
Alors, que le dimanche après-midi
ouais, tu peux... Mais je prends pas ton cas, Gilles, mais...
Tu m'as fait peur.
Je prends quelqu'un de surexcité en permanence, qui bosse comme un fou. Voilà, déjà, s'il prenait le temps de glander le dimanche après-midi, ça lui ferait le plus grand bien. Alors, ce scientifique qui travaille au CHU de Caen explique que lorsqu'on ne fait rien, une activité cérébrale vitale se met en place. C'est un phénomène qu'il a appelé le mode par défaut. Alors, ce mode par défaut, ça désigne ces instants d'oisiveté, faits de voyage de la pensée, ces pensées qui vont et qui viennent, ces mêmes instants qui nous permettent de consolider notre mémoire. Et selon le scientifique, j'ouvre les guillemets, on se tourne vers nos pensées, on se tourne vers des informations récentes auxquelles on a été confronté. Notre cerveau va permettre de faire en quelque sorte une synthèse entre ces informations nouvelles ou relativement nouvelles et des informations plus anciennes. C'est un temps indispensable à la création de notre autobiographie. Si on n'a pas ces moments, notre autobiographie va manquer de pages, mais surtout d'une cohérence d'ensemble. Moi, je trouve ça assez poétique.
Mais à quoi bon pour une autobiographie qu'on n'écrira pas ?
Silence. Oui, mais je sais pas, toi en tant que créateur, Nicolas, tu as souvent été souvent touché par ces moments de grâce où tu glandes et te vient une musique,
oui,
te vient
des mots. Oui, moi je revendique la rêverie active.
Voilà,
c'est oui, tout à fait.
Je pense que moi c'est pareil, quand je glande sur le Larzac, j'ai plein d'idées que je n'écrirai jamais, mais d'autres que j'ai écrites.
Il y a quelque chose qui travaille en même temps.
Voilà, ouais. ce patrimoine mondial de l'UNESCO, ça m'est venu hier en me promenant sur le Larzac.
Vous voulez dire que sur le Larzac, il y a des glandeurs, c'est ça?
Mais non, j'ai dit que je glandais sur le Larzac.
Ah, pardon, pardon.
On y vient exprès pour ça.
Bon, trop non. Pour
allons-y pour les raccourcis. Madame Le Pen, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé.
Oui, laquelle dans la famille Le Pen, je demande.
La Marine. Donc ça date d'hier. Donc c'est de l'info chaude.
Donc, Marine.
Elle a annoncé au cours d'un petit déjeuner, mais salariés, on s'en fout. Donc, elle a annoncé sa volonté de mettre fin à la gratuité de l'éducation pour les enfants étrangers.
Rappelons que c'est un droit constitutionnel.
Absolument. Mais pour elle, c'est la fin de la récréation, je cite. Voilà, donc, effectivement, elle omet de préciser que ce droit à l'éducation est constitutionnel depuis 1946.
Elle est juriste, je crois, de formation, non ?
Ouf. Je ne sais pas.
Marine voilà. Le Pen ? Oui, elle est avocate, je crois.
D'accord. Ouais.
On s'en était pas vraiment rendu compte.
Je ne voudrais pas dire de bêtises.
Enfin voilà, une candidate à la présidence de la République aussi. Donc il faudrait peut-être qu'elle apprenne ce qu'est la République, ce qu'est la Constitution. Et puis j'aurais envie de lui dire, Madame Le Pen, si vous n'aimez pas la République, quittez-la.
Belle formule.
Merci.
Une autre bonne nouvelle, Philippe. Puisqu'on parlait jury, justice, Christine Boutin, on en parlait aussi tout à l'heure. Eh bien, Christine Boutin, l'ex-présidente du Parti chrétien-démocrate et ministre du Logement, je crois, et de la Famille, de son Altesse Nicolas Sarkozy, a été condamnée à 5 000 euros d'amende pour incitation à la haine homophobe.
Tu trouves que c'est une bonne nouvelle ? C'est pas chrétien, ça ? Comme sentiment.
Je ne revendique aucune appartenance chrétienne quoi. Quelconque. Et en plus, elle doit verser 2 000 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros de frais d'avocat aux associations qui s'étaient portées partie civile. Je rappelle qu'elle avait dit « l'homosexualité est une abomination ». Voilà, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle et je m'en réjouis.
Après, moi j'ai pas vraiment. Enfin, des mauvaises nouvelles.
Est-ce que vous avez des qui a dit
oui. Voilà. Ah oui, tiens, il y a longtemps qu'on en a pas eu.
Ouais, moi j'en ai pas beaucoup parce que je pensais que vous aviez épuisé le stock en mon absence et encore une fois, comme je n'ai pas pu.
Non, mais c'est un stock qui se renouvelle sans cesse. Hein.
Oui, mais j'ai pas été très, très à l'écoute de ce genre de. Oui, Gilles, tu en as un ? Moi j'en ai un. Ah, j'en ai un, moi. Oui, enfin. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce que je ne l'avais pas déjà dit ? J'ai quitté un pays communiste...
Je vais faire du tri dans tes papiers.
Ouais. J'ai quitté un pays communiste, la France, pour venir dans un pays libéral, la Chine. Je l'ai déjà dit ?
Je ne sais pas, mais je sais qui a dit ça.
Tu sais qui a dit ça ? Gilles ne le sait pas, donc Gilles, je ne l'ai pas déjà dit. Je répète, hein, parce que... J'ai quitté un pays communiste, la France... pour venir dans un pays libéral, la Chine.
Ça me dit quelque chose, mais non.
Nicolas, je te lâche.
Gattaz.
Pierre Gattaz.
Ah bah non, je ne savais pas.
Très ah fort, bon hein, il a dit ça. Ouais.
Ah d'accord. Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas entendu, lui.
Ah tu trouves hein, en ce moment, il n'arrête pas.
Ouais. C'est vrai
ah bah, moi, sur le net, je ne vois que lui en ce moment.
Je ne dois pas être branché sur sa radio.
Non, pourtant moi non plus. Hein. Ouais. Et bon, elle est facile, je l'ai vu passer. C'était justement avant la dernière fois, donc depuis, c'est passé des choses. Hein. Si un enfant ne veut pas de jambon à la cantine, il prendra une double ration de frites.
Oui.
Ouais, on ne tire pas sur une ambulance, mais
tant pis, moi je suis pas chrétien, je tire sur les ambulances.
Sarko. Ben, d'ailleurs, on aurait pu l'inclure dans la nécro, non?
On aurait pu.
Bah si, on va plus le voir, lui. Et puis, Hollande non plus.
Hey, victime de la primaire.
Il va y avoir du renouvellement quand
méfie-toi,
même.
Méfie-toi de Sarkozy.
Non.
Tu sais, enfin bref, voilà.
Moi, j'ai une bonne nouvelle rapide, mais voilà, concernant la politique, etc. On parle très souvent de traités de libre-échange, etc. On a le TAFTA avec les États-Unis, on a le CETA avec le Canada, mais moi, jusqu'à présent, je n'avais pas trop entendu parler du TISA.
Ah, je l'ai entendu, mais je ne sais plus ce que
voilà,
c'est.
Voilà, donc le TISA, c'est l'accord de libéralisation des services qui est négocié en toute opacité depuis 2013 entre 50 pays, dont l'Union européenne, les États-Unis, le Japon, etc. Le TISA a pour objet d'ouvrir à la concurrence internationale les secteurs des transports, des services à la personne, etc. etc. Donc il se trouve que, bonne nouvelle tout de même, les négociations qui devaient se dérouler à Genève ont été reportées à une date ultérieure. Voilà. Donc après la mise sous cloche du TAFTA, accord de libre-échange avec les États-Unis, les problèmes causés par la ratification en Europe par le CETA, donc l'accord de libre-échange avec le Canada, là on peut dire que le libre-échange a quand même des petits soucis. Une petite, quand même, une toute petite information.
Ça fait un moment quand même qu'il en est question de ce TISA.
Ah, depuis 2013.
Oui, c'est ça, oui.
Voilà.
Oui.
Mais donc, voilà, les discussions, on n'arrive pas à déboucher. Et
malgré leur confidentialité.
Voilà. Donc, on imagine que ça sera en cas contraire. Et donc, l'ultime round de négociation devait avoir lieu début décembre à Genève. Et ça a été reporté. Alors, j'ai parlé très rapidement. Là, j'ai parlé du CETA, vous savez, ce fameux accord de libre-échange
avec le Canada.
Donc, qui a eu la une de l'actualité.
Qui ne satisfait toujours pas la Wallonie.
Voilà. Alors, il faut quand même savoir que cette question va bientôt passer au Parlement européen. Et alors, comment éviter que ce vote fasse des vagues au Parlement? Eh bien, la conférence des présidents du Parlement européen, donc qui regroupe le président du Parlement européen et les présidents des groupes politiques représentés, a trouvé la solution. C'est que les commissions du Parlement européen, les commissions de l'emploi et de l'environnement, n'auront pas accès au texte. Voilà. Donc, pour éviter toute discussion sur les questions d'emploi et d'environnement qui seraient mises à mal par cet accord, la solution a été vite trouvée. Les députés européens n'iront pas accès.
C'est-à-dire qu'on n'a plus de la représentation pour pouvoir négocier.
Voilà, tout à fait. Une décision sans précédent dans ce grand Parlement démocratique.
Puis-je trampoliner ?
Trampoline.
Et on est vraiment très fort parce que justement, je voulais parler de ce que TAFTA et CETA pourraient nous augurer. Et je vais reparler de McDo.
Encore ?
Ben oui, moi je les aime bien, McDo. Ils réclament 19,8 millions de dommages et intérêts à la ville de Florence. Donc je rappelle que dans les accords de TAFTA, les firmes pourraient effectivement se retourner contre les États. Donc, et pourquoi ? Parce que la ville de Florence a interdit en juillet dernier l'installation d'un restaurant sur la Piazza del Duomo.
Tu m'étonnes.
Eh oui, mais il faut savoir que donc, c'est l'Amérique qui avait adopté en janvier 2016 un règlement visant à protéger le patrimoine du centre historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tiens, c'est bizarre, eux aussi. Pour proposer ses burgers aux 3 millions de touristes, le fast-food avait fait des efforts pourtant, en s'engageant de revoir son modèle exporté, notamment d'utiliser 80% de produits locaux et de servir à table, ce qui ne se fait pas dans tous les restaurants, et ce qui ferait de McDonald's un restaurant comme les autres. Alors, McDonald's donc a porté plainte et j'ai noté la déclaration parce que je n'ai pas tout compris.
Tu as le montant des dommages demandés ?
19,8 millions de dommages et intérêts. Ouais,
on le répète.
Qu'ils réclament, ouais, on répète, ouais, c'est énorme. Et on imagine s'ils pouvaient un McDo sur le Larzac.
La dernière fois qu'il y en a un qui s'est approché d'un petit peu près.
Je finis avec la citation de McDo. Nous ne pouvons pas accepter que des règlements discriminatoires nuisent à la liberté d'entreprendre sans aider personne. J'ai pas compris la fin. Nuise à la liberté d'entreprendre sans aider personne. Voilà.
C'est-à-dire qu'ils estiment qu'il n'y a pas de contrepartie au refus d'installation.
Peut-être. Ça m'échappe. Un peu de science, si vous voulez.
Alors, le temps oui, il reste quelques minutes.
voilà, je vais vous expliquer pourquoi les Vikings ont envahi l'Europe. Ni plus ni moins.
Ouais, parce qu'ils voulaient de la caillasse.
C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par caillasse ?
Les richesses.
Oui, alors pourquoi est-ce qu'ils... C'est une bonne réponse, Gilles. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient des richesses ?
Parce qu'ils buvaient de la bière et ça coûte cher.
Pas tout à fait.
Oh.
Eh bien, ce serait pour une histoire de fesses. Eh oui.
J'en reste pas en toi.
Tu en restes pour toi. Eh oui, bah c'est une étude très sérieuse qui a été publiée dans la revue Evolution and Human Behavior. Alors...
T'as de ces lectures, toi.
Selon les auteurs, ce serait donc le sexe, et plus particulièrement la recherche de partenaires féminines qui auraient poussé les guerriers à envahir les côtes atlantiques de l'Europe. Alors, pour mieux comprendre cette théorie, il convient d'expliquer les mœurs, attention, des Vikings. D'après les historiens, beaucoup d'hommes pratiquaient la polygamie. Et ceci faisait qu'au sein d'une société complexe, basée sur une hiérarchie établie en fonction des richesses de chacun, et ben, comme d'hab, hein, ceux qui possèdent le plus de richesses, c'est ceux qui ont le plus de nanas. Donc autrement dit, pas de pognon.
Ça n'a pas changé ça. Hein.
Voilà, je dis, pas de pognon, pas de Rolex, pas de nanas. Et voilà, donc le mariage polygame augmenterait la concurrence mâle-mâle. Et donc les guerriers partaient à la conquête de pays pour se faire du blé, pour revenir auréolé d'une certaine puissance et donc pouvoir convoler avec des partenaires. Bon.
Ouais.
Bah.
Ouais. Ouais.
Il est sceptique en plus.
Oui, très, très.
Et
très
c'est
très
Evolution très... and Human Behavior.
Quand oui, même. Bon, attends. Oui. Ouais. Attends.
Bon, oui. je te concède, il n'y aurait pas que ça. Il y avait aussi pour développer du commerce. Et puis, il y a toujours les mecs qui avaient déjà un gros pouvoir, qui voulaient encore plus de pouvoir. Ça, ça n'a pas changé non plus. Et donc, qui envahissaient d'autres pays.
Cela étant, ça marche souvent ensemble. Hein. Ça vrai. Aussi, depuis que le monde est monde, non ? Pouvoir, richesse, gonzesse, tout ça. Enfin bon, c'est voilà. C'est... Mais bon, effectivement, c'est une autre théorie. Quoi.
Non, mais souvent, l'histoire est bien pratique pour faire du sensationnel aussi. En fait, Bon.
Enfin, bon. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils ont sorti tout ça à partir d'analyses de tombes. Hein. Ils ont retrouvé des guerriers. Enfin, il faudrait relire l'article dans le détail, mais je suis toujours épaté par les interprétations des paléontologues et autres archéologues.
Non, mais ce qui est certain, c'est que l'étude en matière archéologique ou historique, c'est quelque chose qui se fait sur un très, 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 très long terme, qui demande énormément de travail, quoi. Voilà, sérieux. Et souvent, on en retire dans la presse que des interprétations un peu...
Serais-tu en train de dire que je...
Ah non, mais c'est pas toi, c'est Evolution of Human Behavior.
Que j'aurais une certaine partialité dans mes commentaires et mes analyses. Tiens, on a le temps, une bonne nouvelle pour terminer. Là. Est-ce que vous connaissez le Safe Water Cube ?
Non.
Eh bien, c'est une invention d'un Nantais qui permet...
Comme son nom l'indique.
Comme son nom l'indique, oui. On aurait pu effectivement avoir une appellation française. Non, ben, c'est sérieux. Hein, c'est un truc qui permet de traiter 1000 litres d'eau et qui permet de la rendre potable. Alors, ça se présente sous la forme d'une boîte inox de 1m20 sur 1m20, d'où son nom de cube. Pas d'électricité, pas de maintenance, si ce n'est un petit entretien avec de l'eau et du vinaigre, capable de faire 1000 litres par heure. Donc il y a 5 étapes de filtration mécanique. Et la dernière, c'est une phase de filtration céramique extrêmement fine qui fait obstacle aux bactéries et aux virus et détruit donc tous les organismes à l'origine de diarrhée, dysenterie, choléra, etc. et autres hépatites. Je rappelle qu'il y a 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Ce Safe Water Cube coûterait 5 500 €. On imagine qu'avec une production importante, ça pourrait faire baisser considérablement les coûts. Et donc, ça marche. Il y a une vidéo où l'ingénieur boit l'eau, une espèce de saloperie qu'il a ramassée, qu'il a filtrée. Voilà, moi, je trouve que je n'en ai pas entendu beaucoup parler.
Très bien, une bonne nouvelle pour terminer.
Voilà, pour boucler la boucle, il y a pas mal de nouvelles dont on n'a pas spécialement entendu parler, y compris local.
Exactement. Et peut-être que la prochaine fois, tu nous parleras des routes solaires, Philippe.
Des routes solaires ?
Oui.
Pourquoi veux-tu que je te parle des routes solaires ?
Ben, je sais pas. C'est comme ça. C'est une idée comme ça. Allez, c'est terminé pour le conflit de canard. Merci, merci Philippe, merci Gilles, merci à vous, chers auditeurs.
C'est quand la prochaine
suivi.
Alors ?
Merci Émilie pour la technique et pas la programmation puisque c'était le choix.
Non, un choix musical obscur.
Obscur, mais enfin.
Bon, va donc, est jeune.
Bon, on te laisse le soin justement de conclure musicalement cette émission.
Oh, bah, ce sera le générique.
Ouais, très bien.
Quelle imagination.
Allez, à la prochaine.
Au revoir.